j'ai proposé effectivement de réfléchir un petit peu ensemble sur ce que j'appelle islamologie classique et islamologie appliquée pour essayer de déterminer exactement quelle attitude nous pouvons avoir, nous qui sommes les usagers de toute une culture et de toute une tradition d'études qui s'est développée aussi bien du côté occidental que du côté musulman, au sujet de cet islam qui envahit pratiquement la vie contemporaine de toutes les sociétés et, ce qui est nouveau, des sociétés européennes elles-mêmes. Nous savons dans quelles conditions l'islam, ce qu'on appelle l'islam, parce qu'il ne faut pas tout de suite utiliser ce mot comme cela, mais on est obligé quand même de nommer cet ensemble mondial et aussi cette longue tradition d'histoire et de pensée. Mais le fait de la nommer islam est extrêmement ambigu, comme nous allons le voir. Et c'est justement la façon de parler de l'islam aujourd'hui, et d'en parler d'une façon qui soit différente, fondamentalement différente, à la fois de la façon dont les musulmans eux-mêmes, pour commencer par eux bien sûr, parlent de l'islam, et la façon dont les Européens, en particulier depuis les 30 dernières années, et même les 20 dernières années, sont en train de parler de ce qu'ils appellent l'islam. Tout le monde ainsi parle quotidiennement de cette chose que nous ignorons et qui est un ensemble de problèmes, et on les réduit tous en les appelant l'islam. Alors, s'il est nécessaire de parler d'islamologie classique et d'islamologie appliquée, c'est justement pour essayer de parler autrement qu'il n'est parlé de cette chose-là, et aussi pour essayer de nous repérer tout de même dans une sorte de forêt vierge où il est très, très difficile de trouver son chemin. Lorsque, en effet, nous voulons connaître un petit peu de façon scientifique ce domaine, domaine de l'histoire, domaine de la vie culturelle, domaine religieux, et aujourd'hui domaine d'une manifestation politique considérable. Lorsque nous essayons donc de nous informer, de quoi disposons-nous? De quels ouvrages disposons-nous? De quelle littérature disposons-nous? C'est ça la première question que nous avons à nous poser si nous avons à travailler de façon scientifique. Bien évidemment, nous disposons d'une première source d'information qui est l'ensemble de la littérature rédigée en langue arabe, uniquement en langue arabe, du 1er au 5e siècle de l'Égypte. Vous voyez, ça, c'est quelque chose de sûr. C'est une donnée sûre, à savoir que du 1er siècle, ou si vous voulez, depuis l'événement culturel et linguistique, et pas seulement religieux, que constitue le Coran, jusqu'au 5e siècle de l'Égypte, toute la littérature rédigée sur l'islam est en langue arabe. C'est une donnée importante, comme vous le voyez, puisque nous sommes réduits là à passer nécessairement par un outil linguistique qui est l'arabe. Qu'il s'agisse des musulmans ou qu'il s'agisse de non-musulmans, nous devons passer par là. Mais pourquoi le 5e siècle de l'Égypte? Parce qu'à partir du 5e siècle de l'Égypte, les intellectuels iraniens, qui jusque-là eux-mêmes avaient écrit en langue arabe, vont commencer à écrire dans leur langue, en persan. Et donc le persan va occuper lui aussi sa place dans l'expression de l'islam, comme religion, comme culture, comme développement historique, etc. Mais durant ces cinq siècles, il s'est formé pratiquement une pensée qui est l'essentiel de la référence dont les musulmans, depuis, ont usé, et la référence à laquelle également ceux qui se sont mis à étudier l'islam en dehors du monde musulman, c'est-à-dire dans le monde européen, essentiellement, la référence essentielle à laquelle se sont reportés ceux que l'on appelle les islamisants, les islamologues, les orientalistes, enfin le vocabulaire est varié là-dessus. Mais en tout cas, nous avons là un ensemble de données que nous appelons des données de première main. On verra tout à l'heure comment ces données de première main ont été justement utilisées et le sont encore aujourd'hui. Ça, c'est une première source d'information, mais il est évident que pour des gens comme nous, par exemple dans cette salle, on ne va pas consulter directement quelqu'un comme Tabari, qui est un grand historien et un grand exégète du Coran, et qui nous a laissé une œuvre tout à fait imposante, qui récapitule justement tout un cheminement, à la fois de la littérature historiographique et de la littérature exégétique, et aussi de la littérature juridique, c'est-à-dire à peu près tout ce qui peut concerner la connaissance de l'islam dans cette période classique. On ne va pas directement s'adresser à lui, parce que lui-même doit faire l'objet de toute une investigation, il faut une préparation, etc. Deuxième type de source que nous trouvons dans nos bibliothèques, lorsque nous voulons nous informer sur cet islam, c'est l'ensemble des écrits qui sont dus aux musulmans eux-mêmes, mais cette fois-ci des musulmans qui peuvent s'exprimer dans leur propre langue, pas nécessairement en arabe, à partir du 19e siècle. Il y a donc des sources qui sont écrites en arabe, mais il peut y avoir des sources en persan, des sources en turc, des sources en ourdou, des sources dans d'autres langues, en Indonésie, des sources bien entendu en anglais, en français, des musulmans qui écrivent en anglais et en français. Par exemple, il y a beaucoup de Pakistanais et beaucoup de musulmans de l'Inde et d'Indonésie qui écrivent en anglais. Et ils parlent de l'islam en tant que musulmans. Il faut ouvrir tout ce champ, n'est-ce pas ? C'est la littérature musulmane des musulmans eux-mêmes au sujet de l'islam. Alors nous verrons que les musulmans parlent l'islam beaucoup plus qu'ils ne parlent de l'islam. Voilà la chose qu'il faut tout de suite noter. Ils parlent l'islam parce qu'ils en vivent. Comme les chrétiens parlent le christianisme. Beaucoup plus qu'ils ne parlent du christianisme. Mais la question a été posée ce matin et nous y reviendrons. En quelle mesure on peut parler d'une religion d'une façon scientifique tout en englobant, tout en prenant en charge tout ce que les croyants eux-mêmes disent de leur propre foi. C'est un problème qui se pose constamment et souvent. Généralement, on répond que ça n'est pas possible, que c'est difficile. On a eu une histoire ce matin sur l'humour, la chair de l'humour, etc. On y reviendra parce que c'est un point important et personnellement j'ai une réponse là-dessus. Troisième source d'information, c'est ce qu'on peut appeler la littérature islamologique, justement. L'islamologie est une formation savante, c'est le logos sur l'islam. Et le logos, au sens grec, c'est le discours articulé, et un discours rationalisé, rationalisant, donc nécessairement critique en principe, sur un objet d'étude qui est l'islam. Voilà la définition de l'islamologie. Et ce mot islamologie n'apparaît pas chez les musulmans, justement. Notez-le bien. Et quand les musulmans maintenant veulent parler de cette discipline qui essaye de se constituer en discipline scientifique, et à mon avis, elle n'y est pas encore parvenue, eh bien, ils ont un néologisme en arabe. La preuve que les musulmans parlent l'islam, ils ne parlent pas de l'islam. Ils disent « al-islamiyat » au pluriel. Vous voyez, c'est un néologisme. Ça n'existe pas. Et donc, on peut dire que l'islamologie, c'est une activité de connaissance qui a pour objet d'étude cette chose, encore une fois, je l'appelle chose à dessein, je répète à dessein, la chose c'est ce qu'on ne connaît pas bien et qui fait l'objet justement d'une investigation que l'on appelle l'islam. Et les savants, car ce sont des savants, bien qu'on les appelle orientalistes, disons, ce sont des savants qui vont avoir pour objet d'étude l'islam, vont utiliser les moyens de la connaissance, les outils conceptuels, les méthodologies, les problématiques qui sont utilisées dans leur environnement universitaire et scientifique, selon qu'il s'agit d'allemand, de français, d'espagnol, hollandais, suédois, etc. Et si j'énumère ainsi ces nationalités, c'est parce qu'il y a des différences d'approche, parce qu'il y a des différences, justement, dans l'outillage conceptuel et dans la perspective scientifique. Dans l'univers germanophone, dans l'univers anglophone, dans l'univers francophone. Je peux vous donner un exemple que je rencontre souvent. Le concept d'imaginaire, qui aujourd'hui est si important en sociologie et en anthropologie, tel que ces deux sciences sont pratiquées dans le monde francophone. Le mot imaginaire n'a pas de traduction en anglais. Il n'y a pas de mot anglais pour traduire le concept d'imaginaire. Et les Allemands n'ont pas non plus un équivalent allemand exact de ce concept tel qu'il a été travaillé, non seulement par les anthropologues et les sociologues dans le domaine francophone, mais aussi par des historiens. Georges Duby est un historien, Jacques Le Goff est un historien, et ils utilisent ce concept en tant qu'historien du Moyen-Âge. Vous voyez, il y a donc des différences. Il ne faut pas mettre l'islamologie comme ça dans une sorte d'ensemble qui serait caractéristique de l'Europe ou de l'Occident. Il y a des différences. La philologie, la méthode philologique telle que la pratique l'école allemande est différente de la philologie telle que la pratique l'école française. Et l'école française a été influencée, très influencée et conditionnée dans ses approches de l'islam par les relations des savants français, les relations directes des savants français, surtout au XIXe siècle, avec le terrain lui-même. Ils vivaient sur le terrain, en particulier en Afrique du Nord. Alors vous avez toute une littérature que les Maghrébins appellent aujourd'hui la littérature coloniale sur l'islam et sur le Maghreb, parce qu'elle est née dans cette période coloniale, et qui effectivement a un regard assez particulier, qui n'est pas celui de la science allemande, qui n'est pas toujours celui de la science anglaise, etc. Donc là, vous voyez, il y a tout un ensemble de considérations qu'il faut avoir pour déterminer exactement les influences de la recherche scientifique dans le domaine de l'histoire, dans le domaine de l'histoire de la pensée, dans le domaine de la philologie, qui est une discipline maîtresse pour tous les savants européens au XIXe siècle et jusqu'aux années 1950. Ça exerce un véritable empire dans nos universités et par conséquent dans les études. Et un empire qui va influencer les premiers chercheurs et intellectuels musulmans à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Cette philologie s'accompagne aussi d'une autre discipline importante qui a joué un grand rôle dans le développement des études sur l'islam au XIXe siècle et encore une fois dans la première moitié du XXe siècle jusqu'aux années 50, c'est la discipline historique, l'histoire. L'histoire est liée, très liée pendant longtemps à la méthode philologique chez les Européens. Et l'histoire a développé ce que les historiens appellent l'attitude historiciste, l'historicisme, c'est-à-dire cette attitude qui consiste à regarder l'histoire des sociétés comme un ensemble d'événements qui se succèdent chronologiquement et qui, pendant longtemps, ont été sélectionnés surtout pour faire l'histoire politique, l'histoire militaire, très peu l'histoire sociale et très peu l'histoire économique. Maintenant, évidemment, nous sommes habitués à l'histoire économique, à l'histoire sociale, c'est devenu quelque chose qui s'est même tellement développé qu'on a éliminé un petit peu l'histoire que l'on a appelée dédaigneusement l'histoire événementielle, l'histoire chronologique. Et bon, là il y a toute une discussion entre les historiens, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais je vous le signale parce que c'est l'atmosphère intellectuelle, c'est l'atmosphère scientifique dans laquelle se sont formés les spécialistes qui vont étudier l'islam et faire ce qui est devenu de l'islamologie, c'est-à-dire un discours qui se veut scientifique sur l'islam. Et tout ce qui a été fait dans ce cadre-là, depuis le XIXe siècle, a été présenté sous le nom d'islamologie classique. Et ici, il faut essayer d'expliquer ce qualificatif. L'islamologie est qualifiée de classique à un double titre. Parce que les spécialistes européens de l'islam se sont penchés essentiellement sur les textes classiques en langue arabe, sur les textes de la période classique de l'islam. Cette période dont je vous ai dit qu'elle est caractérisée par l'usage exclusif de la langue arabe, du 1er au 5e siècle de l'Hégire. Les chercheurs ont privilégié cette période. Et dans cette période, ils ont privilégié ce qu'ils ont considéré comme les grands auteurs, les auteurs les plus représentatifs, comme on dit, de la pensée islamique. Par exemple, les écoles juridiques, les fondateurs d'écoles juridiques, ou bien les grands théologiens, comme l'Ash'ari, ou les grands auteurs, comme l'Ghazali, ou les grands philosophes, Avicenne, Averroès. Cela ne veut pas dire que cette curiosité islamologique portée sur la période classique a épuisé les sujets qu'il faut étudier dans cette période. On est bien loin du compte. Très loin du compte. Mais il faut bien dire que cette islamologie classique, donc elle est classique en ce sens qu'elle étudie les textes classiques de la pensée islamique classique, mais elle est classique aussi au sens européen, en ce sens que les savants islamologues vont utiliser un cadre de connaissances relatif à ce qui constitue la science classique en Europe. La science classique telle qu'en Europe, elle s'est développée à partir du XVIe siècle c'est-à-dire à partir du mouvement de la Renaissance. Les humanistes européens de la Renaissance ont mis au point la méthode philologique, en particulier pour l'histoire des textes et l'étude des textes, en étudiant les textes gréco-latins. Guillaume Budet et compagnie ont étudié les textes gréco-latins de la façon que nous connaissons, ils les ont édités, ils les ont traduits, ils les ont annotés, et c'est ainsi que s'est constituée cette méthode philologique classique qui est devenue la référence essentielle du travail scientifique qui est estimé dans l'enseignement universitaire européen, et qui le reste d'ailleurs, ça n'est pas terminé. Il y a une différence aussi selon les pays. En France, par exemple, on s'est pas mal éloigné de cette méthode philologique depuis que la linguistique a pris l'extension que nous savons, et depuis aussi que les études historiques se sont diversifiées par leur méthode et leur curiosité. Il y a beaucoup de changements, alors que du côté de l'Allemagne, on reste encore extrêmement attaché à cette méthode philologique. Donc vous voyez la chose à retenir, ne vous trompez pas, quand nous disons islamologie classique, elle est classique à un double titre. Il y a une sorte de conjonction entre le classicisme, la période modèle, la période de référence pour les musulmans eux-mêmes, que constitue cette période de formation et de constitution du système de référence musulman, et que les musulmans, les arabes en particulier, appellent le Tura, l'héritage culturel essentiel. Et c'est en ce sens, vous savez, le classicisme, c'est aussi cette sorte de modèle culturel qui se forme, comme on dit au XVIIe siècle français, que c'est le XVIIe siècle classique, parce qu'il y a des œuvres qui ont pris une telle importance qu'elles deviennent des modèles que l'on a tendance à reproduire, que l'on enseigne à l'école, et qui deviennent une référence essentielle dans la tradition culturelle d'un pays. Donc, il y a ce classicisme-là, mais il y a aussi le classicisme propre, encore une fois, comme vous le voyez, à l'Europe. Alors, bien sûr, je n'ai pas le temps d'entrer dans l'analyse des aspects positifs, et qui restent positifs, j'y insiste, qui restent nécessaires, j'y insiste aussi, de la méthode philologique, et même d'un certain historicisme. La méthode philologique et un certain historicisme restent nécessaires pour l'étude de l'islam, et en particulier de cette période classique de l'islam. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore dans les bibliothèques du monde entier des manuscrits, des œuvres manuscrites qui remontent à cette période classique et qui n'ont pas encore fait l'objet d'une édition critique. Au sens où la collection Guillaume Budet sur les textes gréco-latins nous a habitués justement à présenter des textes anciens et à les présenter de façon moderne pour des chercheurs et des étudiants. Par exemple, cette année, je travaille avec mes étudiants à Paris sur l'Ihya Ulumuddin de Ghazali. Vous savez que ce Ihya Ulumuddin est encore présenté dans ces pages jaunes infâmes, avec un texte absolument compact, sans paragraphe, sans présentation critique, rien qui facilite à l'étudiant ou au lecteur ordinaire l'accès au texte. Un livre de cette importance. On peut citer d'autres livres, le Kitab al-Aibar d'Ibn Khaldoun. Dieu sait si on fait des éloges d'Ibn Khaldoun et si on le met en avant, etc. Et ça n'est pas encore édité de façon scientifique satisfaisante. La Muqaddimah d'Ibn Khaldoun n'est pas encore édité de façon satisfaisante, etc. Je peux vous donner beaucoup d'exemples comme celui-là. C'est pour cela que je dis, attention, ne discréditons pas l'islamologie classique en ce qui concerne ce secteur-là, celui de l'édition critique, scientifique, philologique des textes, et de la mise à disposition des chercheurs de cet héritage qui est considérable. et qui est malheureusement dispersé dans les bibliothèques du monde entier. Ça aussi, c'est un autre aspect du problème. L'historicisme aussi, ou un certain aspect de l'historicisme est nécessaire parce que nous ne connaissons pas encore la chronologie exacte de toute l'histoire des sociétés du monde musulman. Le Maghreb, par exemple, nous sommes extrêmement pauvres en ce qui concerne l'histoire du Maghreb. Je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui restent à faire et nous sommes très, très en retard pour la connaissance historique toute simple, je veux dire, selon les méthodes ou la vision chronologique classique des historiens. Donc, il y a là quelque chose qui reste valable en ce qui concerne les études islamiques. Mais il y a autre chose qu'il faut absolument dépasser maintenant, et il faut justement compléter cette activité qui reste nécessaire, de recherche sur les textes, les traductions, etc., par ce que j'appelle alors, je vais passer à la deuxième partie, l'islamologie appliquée. L'islamologie appliquée. Qu'est-ce que c'est que l'islamologie appliquée? L'idée de cette notion m'est venue personnellement il y a très longtemps, du fait justement que j'ai personnellement, comme beaucoup de mes amis et collègues musulmans, maghrébins ou orientaux, j'ai rencontré cette difficulté pratique qui consiste à parler de cet islam qui conditionne la vie des musulmans aujourd'hui dans les sociétés musulmanes. À parler de cet objet d'étude en tant que musulman, mais à en parler dans le cadre qui nous est offert, le cadre scientifique presque exclusif qui nous est offert par l'islamologie classique. Lorsque j'ai fait mes études à Alger, avec mes maîtres de ce temps-là d'Alger, je ressentais une insatisfaction profonde, constante, à lire les ouvrages qui m'étaient donnés dans la bibliographie et qui étaient les ouvrages de cette islamologie classique dont je viens trop brièvement de vous parler, parce que les étudiants algériens dans les toutes premières années 50 vivaient dans le contexte nationaliste que vous ne connaissez pas évidemment, mais que connaissent les gens de ma génération. C'est-à-dire que les Algériens posaient des questions pratiques sur l'islam. Qu'est-ce que c'est que cette religion qui joue un tel rôle dans notre société et qui fait que nous avons une puissance qui s'appelle la France, qui occupe le pays, qui exerce la souveraineté politique dans le pays, alors qu'on nous dit que l'islam avait connu, etc. C'est ce genre de questions pratiques qui revenaient dans toutes les discussions. Et on n'avait rien pour répondre à une question de ce type. Parce qu'il n'y avait pas d'études qui prennent en charge ces questions vivantes posées par des citoyens vivants en posant des problèmes de critique historique, des problèmes de critique des conditions de production de la pensée islamique, aussi bien au cours de son histoire que dans les moments où nous nous trouvions. Et où on avait le défi quotidien d'une pensée occidentale, pour nous cette pensée s'offrait évidemment dans les cadres et sous la figure de la pensée française, qui elle nous apparaissait comme une pensée triomphante, une pensée qui a répondu à toutes les questions de façon scientifique, et une pensée qui faisait peser sur tout ce qui concernait l'islam cette accusation terrible que l'islam n'a pas du tout participé à la production, à la construction du monde moderne. Que le discours islamique contemporain prend en charge ces défis-là, sur le plan justement d'une pensée scientifique, critique, qui entre dans la modernité et qui contribue à la production de la modernité. Voilà l'origine de ce que j'appelle l'islamologie appliquée, c'est-à-dire que le questionnement islamologique part des questions posées par les sociétés musulmanes elles-mêmes, c'est-à-dire les citoyens, les acteurs sociaux de ces citoyens, de ces sociétés aujourd'hui dans la période contemporaine. Et partant de ces questions, prenant en charge ces questions, reviennent bien sûr au domaine de l'étude, reviennent au domaine de l'histoire, reviennent au domaine de l'histoire de la pensée, pour essayer de voir quels ont été les développements historiques en rapport avec les problèmes posés aujourd'hui et en rapport avec la perception et l'interprétation et l'utilisation idéologique essentiellement que les musulmans contemporains font de la référence à l'islam en tant que religion, de la référence à l'islam en tant que culture, de la référence à l'islam en tant que patrimoine nommé Torah, comme je l'ai dit, Torah qui, comme nous le savons, est beaucoup plus consommé par les musulmans contemporains en tant que référence idéologique, en tant que thème idéologique, que en tant que thème de recherche qui appliquerait aujourd'hui l'ensemble des méthodes et l'ensemble des questionnements développés par les sciences de l'homme et de la société. Et ça, c'est le deuxième volet de l'islamologie appliquée. Vous voyez, premier volet de l'islamologie appliquée, c'est le surgissement des sociétés musulmanes à une histoire indépendante, si je puis dire, à une histoire produite par elles-mêmes et non pas commandée par une force externe. Cette prise en charge intellectuelle et scientifique. Deuxième volet de l'islamologie appliquée, c'est l'application des sciences de l'homme et de la société à l'étude de l'islam. De l'islam d'abord en tant que religion, de l'islam en tant que développement culturel, de l'islam en tant que facteur général de production des sociétés que nous qualifions de musulmanes. Alors ici, le problème devient compliqué. Parce que la prise en charge des sciences de l'homme et de la société ne revient pas, bien sûr, exclusivement aux chercheurs musulmans. Ça n'est pas la tâche exclusive des chercheurs musulmans. Et alors nous sommes obligés de revenir à l'islamologie classique, à nos collègues. Nos collègues qui, dans les universités d'Occident cette fois, l'Occident c'est pas la même chose que l'Europe, puisque ça inclut le monde américain, ça inclut le monde japonais, ça inclut le monde russe. L'Occident c'est de San Francisco à Vladivostok, en incluant le Japon. C'est ça la notion d'Occident. Tandis que la notion d'Europe, c'est autre chose. On pourra développer ça dans un autre moment, peut-être, mais je ne peux que le signaler ici. Du point de vue historique et culturel, c'est très très important. Mais en tout cas, nous trouvons des spécialistes de l'islam dans tout ce monde-là. Et alors, le débat, maintenant, sur l'étude de l'islam, devient un débat d'ordre épistémologique d'abord. D'ordre épistémologique entre les chercheurs en tant que chercheurs. Il se trouve que l'objet d'étude est l'islam, mais ça peut être le christianisme, ça peut être les sociétés européennes, ça n'a pas d'importance. Or ici, qu'est-ce que nous trouvons dans les universités occidentales en ce qui concerne l'islam? Quelle est la situation, n'est-ce pas, de la recherche scientifique appliquée à l'islam dans les universités occidentales. C'est ici que nous trouvons le point, à mon avis, le plus important en ce qui concerne l'étude de l'islam dans les universités occidentales. Car, institutionnellement parlant, l'islam est étudié dans les départements d'orientalisme. Orientalistique, disent les Allemands, Near Eastern Studies, disent les Américains. Département, à la Sorbonne, nous avons UFR, c'est-à-dire Unité de Formation et de Recherche, c'est une unité administrative dans l'université française. Orient, monde arabe. Le CNRS français est en train de discuter une réforme de ces différentes sections, c'est-à-dire des sections qui s'occupent des différents domaines de recherche. Le CNRS dispose d'une section qui est la 44e section, qui est consacrée à l'étude de l'islam, de l'Inde, de la Chine, du Japon, de l'Amérique précolombienne et de l'Afrique précoloniale. Tout ça. Dans un même sac, si je puis dire. Ça forme une section du CNRS. Vous voyez le problème que ça pose. Le découpage. Le problème du découpage même. Des départements, découpage des départements qui correspond à un regard porté sur l'objet d'étude. L'islam est mis à l'extérieur du monde européen. Il est mis dans un Orient qui est lui-même très indéfini. Ce qui veut dire que les spécialistes de l'islam ne pourront pas avoir l'occasion de affronter toutes les discussions scientifiques instaurées dans les différentes disciplines qu'il est nécessaire d'utiliser pour étudier n'importe quelle société, n'importe quelle tradition de culture. Et parmi ces disciplines, nous avons en premier lieu la linguistique, avec les études de sémiotique. Nous avons bien sûr l'histoire, dont je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a eu des changements tout à fait considérables depuis les années 30 dans la méthode historique, et cela, vous le savez, je l'espère. Et vous avez l'anthropologie, qui demeure une discipline peu enseignée, l'anthropologie culturelle, l'anthropologie sociale, l'anthropologie politique, qui demeure peu enseignée, en tout cas dans les universités françaises. En Amérique, c'est un peu différent. Mais je maintiens qu'en Amérique, on n'est pas encore arrivé à faire une distinction nette entre les ambitions de connaissance de l'anthropologie et ce qu'on a pratiqué depuis le 19e siècle sous le nom d'ethnographie. Et le regard ethnographique est tout à fait différent, épistémologiquement, du regard anthropologique. Alors vous voyez, sans parler de la sociologie, sans parler de la psychologie sociale, sans parler de l'histoire comparée des religions qu'évoquait ce matin Jacques Vandenbourg, l'histoire comparée des religions qui, dans bien des départements, quand il existe des départements d'histoire des religions, car il n'en existe pas dans toutes les universités, il faut le savoir, car en France, il n'en existe pas dans toutes les universités, mais même lorsque il existe des départements d'histoire des religions, l'islam est généralement exclu du département d'histoire des religions. Si vous voulez entendre parler de l'islam, on va vous dire, allez donc au département d'études orientales. C'est là qu'on vous parlera de l'islam. Mais pas ici, au département d'histoire des religions. Je suis évidemment très heureux qu'à Lausanne, les choses se passent différemment. Mais c'est une heureuse, très heureuse exception qu'il faudrait encourager et développer. Parce que ici, vous voyez l'enjeu. L'enjeu, c'est de maintenir l'islam dans une sorte de marge et dans une sorte de monde à part qui ne participe pas au mouvement général de la recherche scientifique telle qu'elle s'effectue dans les disciplines de base, ces disciplines qui ont tellement contribué à modifier le regard scientifique sur les sociétés depuis les années 50. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai toujours dit 19e siècle jusqu'aux années 50. Car c'est à partir des années 50 que justement des sciences de l'homme et de la société. Dans le monde européen, dans les universités européennes et occidentales, vont développer de nouvelles stratégies de connaissance, de nouvelles problématiques, de nouvelles interrogations. Et tout cela se fait sur la base de l'exemple du christianisme, du judaïsme, éventuellement de religions anciennes qui ne doivent rien aux religions de livre. Je cite le grand travail de Lévi-Strauss. Lévi-Strauss a étudié des sociétés américaines précolombiennes, justement, mais il s'est élevé à un niveau d'analyse et de problématique qui est devenu anthropologique. Et vous savez l'influence qu'il a eue, justement dans les années 50 et dans les années 60, pour modifier l'ancien regard ethnographique sur les sociétés anciennes. Au point que un autre anthropologue français, Georges Ballandier, a écrit ce livre très significatif d'une évolution scientifique à l'intérieur des sciences de l'homme et de la société, ce livre qui s'appelle Le Détour, dont je vous conseille la lecture. Le Détour. Georges Ballandier a fait sa thèse dans les années 50 sur les sociétés d'Afrique noire. Ça s'appelle Sociologie d'Afrique noire. Donc il a fait pratiquement de l'ethnographie dans les années 50, comme les petits copains d'avant. Et puis il est revenu en France, il a enseigné à la Sorbonne toute sa carrière dans les années 60-70. C'est seulement le livre a dû paraître en 87, je crois, ou 86. Il a eu cette idée d'écrire Le Détour, qui veut dire que par le détour des sciences, des sociétés dites primitives ou dites archaïques ou dites anciennes, qui étaient des sociétés abordées avec le regard ethnographique, il a commencé à regarder autour de lui la société française avec le même regard. Et il s'est mis à découvrir le regard anthropologique, porté cette fois-ci sur la modernité, dans les lieux de production de la modernité. Ça, c'est une évolution interne au regard scientifique des chercheurs scientifiques sur les sociétés occidentales. C'est cet ensemble d'évolutions qui sont intervenues, encore une fois, disons, dans les 30 dernières années, en relation, bien sûr, avec le grand phénomène historique de la décolonisation, qui a profondément affecté le regard scientifique de l'Occident sur les autres sociétés. Ce sont ces changements-là qui apparaissent encore très peu dans la littérature sur l'islam produite encore aujourd'hui par ceux que l'on appelle des islamologues. Et voilà pourquoi la notion d'islamologie appliquée aux deux sens que j'ai indiqués, c'est-à-dire prenant en charge l'histoire interne des sociétés, les questions soulevées par les sociétés elles-mêmes et les musulmans eux-mêmes, et les prenant en charge avec les outils et les modifications de mentalité scientifique qui intervient sous la pression des recherches qui s'effectuent dans ces disciplines nouvelles sur l'homme et sur la société, cet ensemble de choses-là n'est pas prise en charge dans la littérature produite au sujet de l'islam et des sociétés musulmanes, précisément dans ces mêmes 30 dernières années. Alors ici, si j'avais du temps, je pourrais passer en revue un certain nombre d'ouvrages qui sont publiés sur les sociétés musulmanes depuis les années 60 et 70. Qu'est-ce que nous constatons ? En gros, par exemple, il y a une très riche production en France du grand centre qui s'appelle l'IREMAM, l'Institut de recherche sur le monde arabe et musulman, à Aix-en-Provence, qui est une très très grosse affaire où il y a plus de 100 chercheurs financés par le CNRS français. C'est le pôle vraiment, le pôle d'études et de recherche extrêmement important qui concentre des moyens très importants en France et qui représentent vraiment la recherche française telle qu'elle peut s'exercer aujourd'hui sur un domaine de connaissance quelconque, en l'occurrence justement l'islam. Ben, c'est très intéressant d'étudier les publications de l'IREMAM depuis les années 60, jusqu'à nos jours. En gros, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons premièrement une rupture par rapport à l'islamologie classique. Non pas une rupture méthodologique, mais une rupture au niveau des textes même. C'est-à-dire qu'on ne fait plus d'études comme les faisaient les Massignon, les Marsay, les Lévi Provençal, les Blachère, etc. dans les années 50 et avant. On ignore, ou plutôt on se passe de toute référence à la période classique de l'islam. Ce qui pose beaucoup de problèmes. Puisque ce que nous constatons, au contraire, c'est une référence constante, quotidienne, pressante, même exagérée, à cette période-là, pour l'utiliser comme point d'appui à la réaffirmation de ce que ces sociétés appellent l'identité islamique, l'islam, etc., pour s'affirmer dans leur histoire nouvelle face justement à l'Occident. Il y a une grande référence, une constante référence à cette période-là, mais c'est une référence essentiellement idéologique. Donc normalement, l'islamologie appliquée doit prendre en charge ce discours des sociétés actuelles, cette référence faite à la période classique, pour en analyser justement les mécanismes, pour montrer comment cette référence est essentiellement idéologique et non pas historique, pour montrer que les musulmans ignorent totalement l'histoire de cette période, mais qu'ils la consomment idéologiquement. C'est très important de le faire. Eh bien, tout ce type de questionnement-là n'est pas véritablement pris en charge. Pourquoi? Parce qu'on est passé à une autre discipline, à un autre regard qui, à mes yeux, je le livre à votre réflexion, est le pendant actuel du regard ethnographique du 19e siècle sur ces mêmes sociétés. C'est le regard politologique. La politologie. Ce que les Américains appellent political sciences. Et vous savez le succès des political sciences en Amérique. Et combien de chaires ont été créées en Amérique, cette fois-ci dans les départements de sciences politiques, pour étudier l'islam contemporain. Et le résultat, c'est cette immense littérature qui nous submerge, en particulier depuis l'émergence de Khomeini, de la révolution islamique et de tous ces mouvements-là, du Liban et de tous ces mouvements, l'immense littérature produite par la politologie ou les political sciences sur l'islamisme radical, sur le fondamentalisme, sur l'intégrisme, sur toute cette face politique, essentiellement politique, de la vie actuelle des sociétés qui se qualifient de musulmanes. Vous voyez comment je m'exprime? Je veux mettre tout ça à distance. Je ne dis pas directement société musulmane. Je ne dis pas directement islam. Vous voyez? Parce que tout ça doit être mis à distance. Et ça n'est pas mis à distance. Et le grave défaut de toute cette littérature qui nous submerge, c'est que elle ne tient pas compte de la pluralité réelle des voix qui s'expriment dans ces sociétés-là depuis les années 60. Il y a un islam libéral, il y a un islam moderne, il y a un islam ouvert, il y a un islam soucieux de démocratie, soucieux de défense des droits de l'homme, de façon moderne. Il y a des voix pour cela. Il y a des acteurs qui en parlent. Mais ils font moins de bruit et ils se font moins d'entendre que les autres. qui, eux, sont organisés en partis politiques, évidemment, très visibles. Et ce sont ces partis politiques très visibles qui font l'objet de la littérature politologique. Et c'est en ce sens que je vous ai dit qu'ils reproduisent un peu le regard ethnographique d'autrefois sur ces sociétés. Autre chose, c'est que cette attention exclusive accordée à ce type d'expression de l'islam aujourd'hui escamote totalement le travail essentiel que doit faire aujourd'hui tous ceux qui s'intéressent au phénomène religieux tel qu'il s'exprime dans toutes les sociétés, aussi bien musulmanes que occidentales. Ce phénomène, je ferai l'objet d'une analyse ce soir, dans ce que je dirai ce soir, sur les religions et la modernité. Ça, c'est un très très grand sujet. C'est un sujet de très grande actualité qui ne fait pas l'objet, justement, de l'intérêt intellectuel et scientifique de ce regard presque exclusif porté sur ce qui est nommé islam aujourd'hui dans les sociétés musulmanes. Nous sommes loin à la fois de ce que pourrait être une islamologie appliquée, loin de ce qu'a été l'islamologie classique dans ses aspects positifs, et plus gravement encore, nous sommes loin de ce que doit être une recherche neuve, une recherche ouverte sur le devenir actuel du phénomène religieux. Vous voyez, le phénomène religieux en général, qu'il se nomme islam, qu'il se nomme bouddhisme, qu'il se nomme hindouisme, qu'il se nomme christianisme, etc. Il y a là un devenir du phénomène religieux en général qu'il faut envisager et étudier comme tel. En dehors de toutes les catégories intellectuelles héritées de nos passés respectifs, de nos traditions de pensée respectives, précisément au sujet des religions. Parce que les religions ont développé dans toutes les communautés des systèmes de connaissances, des systèmes de pensée, des systèmes d'intelligibilité, sous le nom essentiellement de théologie. Et cette théologie, ou ces théologies, ces systèmes théologiques, ne font pas encore l'objet d'une histoire moderne, critique, déconstructive, pour montrer, et c'est ça qui est entièrement nouveau, et que nous ne faisons pas, même en Occident, sauf évidemment des exceptions qui sont liées à des personnes, beaucoup plus qu'à des institutions. C'est une histoire critique des systèmes théologiques. Une histoire critique des systèmes théologiques. Et ceci ne se fait pas. Le cas de la France, c'est typique. Vous savez que en France, la conception laïque, la loi républicaine sur la laïcité, a abouti à l'exclusion de l'université de tout enseignement de théologie. Même en tant qu'histoire, pas évidemment la théologie telle qu'on l'a fait dans les séminaires, ou dans les facultés de théologie musulmane, ou dans les synagogues juives, etc. Ça, non, effectivement, ça c'est la laïcité. Ça ne peut pas intervenir sous cette forme-là, ça n'est pas ça que je vise. Je dis bien une histoire critique des pensées théologiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire la déconstruction, comme on dit, historique de tous les systèmes théologiques qui ont été développées, en particulier dans cette ère commune qui a été travaillée depuis des siècles par les trois religions dites révélées. Oui. Les trois religions dites révélées. Voilà. Ça, c'est l'histoire critique des théologies. Je ne dis pas les religions révélées. Je n'ai pas le droit. Je veux que ce soit un problème. Je veux que ce soit un thème de recherche qui n'est pas encore posé comme tel et pratiqué comme tel devant des étudiants et des chercheurs. Et ça aussi, ça fait partie, si vous voulez, de ce que peut être une islamologie critique, ou une christologie critique appliquée, pardon, ou une judéologie appliquée aussi, parce que dans toutes ces sociétés chrétiennes, juives et musulmanes, nous trouvons cette même utilisation des systèmes théologiques hérités, des systèmes théologiques non encore soumis à la critique moderne, pour soutenir des usages idéologiques des religions et pour continuer à faire fonctionner dans nos sociétés et à leur insu, parce que ça n'a pas émergé au niveau de la critique justement, à faire fonctionner les théologies, et ici je vous donne une définition qui est programmatique, c'est-à-dire qui doit faire l'objet d'une recherche programmée. Les théologies, en particulier juives, chrétiennes et musulmanes, ont fonctionné et continuent de fonctionner comme des systèmes culturels d'exclusion réciproque. C'est programmatique. Ce sont des systèmes culturels parce qu'ils prennent en charge toute la culture. Et même ils atteignent ce qu'on peut appeler la connaissance axiologique, les axes de la pensée et de la connaissance. Je développerai ça ce soir davantage. Ils touchent même donc l'axiologie. Et ils conditionnent notre perception de la culture et principalement des cultures telles qu'elles sont liées au cours de l'histoire à ce que nous continuons d'appeler les religions à travers les visions que nous en donnent ces systèmes théologiques. Et ces systèmes théologiques sont des systèmes d'exclusion réciproque. En quel sens? Dans ce sens que la théologie juive est bâtie sur le dogme du peuple élu, la théologie chrétienne est bâtie sur le dogme extra ecclesia nulla salus, en dehors de l'église il n'y a pas de salut, et la théologie musulmane est basée sur le thème et la position que le Coran est la dernière manifestation de la révélation, que le prophète est le sceau, la fin de toute prophétie, et que par conséquent, c'est par là qu'il faut passer, et non pas par les versions antérieures de la révélation. Voilà les points centraux sur lesquels sont bâties les constructions théologiques dans chaque cas, et vous voyez que dans chaque cas, il y a exclusion des deux autres. Cette définition, et vous le voyez, très utile parce qu'elle nous permet de traiter tout le monde à égalité. Et de traiter tout le monde à égalité sur le plan de la recherche, et non pas sur le plan de l'affirmation dogmatique. Il n'y a pas place pour l'affirmation dogmatique. Et si il doit y avoir un jour une théologie, ce ne sera plus une théologie exclusivement communautaire, tels que nous les avons utilisés jusqu'à présent. Ce sera autre chose. Et cette autre chose, justement, c'est la modernité, encore une fois, dont nous aurons à parler ce soir. Je crois que j'ai beaucoup trop longtemps parlé. Et je suis très curieux d'entendre vos réactions et vos objections, et éventuellement, peut-être aussi, vos approbations.